Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins.
Alors, Costco propose en ligne une boîte de nourriture sèche au prix de $259.99, conçue pour permettre de survivre 14 jours en cas de catastrophe. Quel beau prétexte pour parler justement de survivalisme. On va en parler avec Mathieu Hébert, cofondateur de l'École de survie des primitifs. Bonjour Mathieu Hébert.
Hey, bonjour, M. Martineau.
Bonjour, moi je suis fasciné par ça. Le premièrement, c'est quoi l'école de survie des primitifs? C'est quoi ça?
L'école que j'ai créée en 2007, c'est une école qui a plusieurs mandats. Donc, la survie en forêt, entre autres, quoi faire si on est perdu. Le retour à la nature, faire des choses comme nos ancêtres, dans le fond, les technologies préhistoriques, c'est pour ça que ça s'appelle les primitifs, les premières technologies. Mais aussi, de par ma nature, je suis survivaliste depuis plusieurs années. Donc, autonomie, résilience, préparation du citoyen, tant au niveau urbain qu'au niveau du jardin. Donc, un peu tout ça. Mais le gros de nos activités, c'est la survie en forêt, puis le retour aux anciennes technologies. Vivre la forêt autrement. Ça, c'est vraiment okay. Notre gros mandat.
Depuis la pandémie, est-ce que vous sentez un regain d'intérêt justement pour tout ce qui est survivalisme?
Oui, c'était déjà présent avant. Le nombre de catastrophes naturelles, de conflits, de choses qui arrivent un petit peu partout. Au début de ma carrière, il fallait convaincre les gens, ah, c'est se préparer, c'est pourquoi? Maintenant, on n'a plus jamais besoin d'aborder le sujet. Des fois dans les médias un petit peu, mais les gens le savent parce qu'ils l'ont vécu en région, des bris de normalité à petite échelle ou à grande échelle, ils le voient, puis la plupart des gens au plus s'en foutent de se préparer un petit peu de façon comme le gros bon sens. Mais les gens sont intéressés d'en apprendre plus sur l'autonomie, puis ça devient une activité comme telle de dire, ah ben au lieu d'avoir une tente et un sleeping bag, on pourrait passer le week-end avec juste ce qu'il y a dans la forêt.
Ça peut être un passe-temps, un sport. Moi, j'étais scout, j'ai fait les scouts, puis on nous mettait dans la forêt avec une boussole, puis il fallait se débrouiller, puis c'était vraiment très le fun. Est-ce que quand même, il y a des gens là-dedans, y a-tu des coucous là-dedans là, qui pensent que demain matin, il va y avoir une guerre mondiale, une attaque, etc., puis qu'il faut se préparer? Et est-ce qu'on a raison d'appeler ça des coucous, ces gens-là?
Ben, moi, je trouve pas, parce que... Évidemment, il y a toutes sortes de monde, puis on va, ça sert à rien de parler du 1% qui est pas sain mentalement. Mais si on regarde ce que les gouvernements font, c'est se préparer, ce que les personnes riches font, font des réserves, ont des plans B, toutes les grosses entreprises, si on regarde Google, des choses comme ça, ils ont des plans pour s'il y a un bris de normalité, il y a une panne de courant majeure, il y a un conflit. Donc, les gens super intelligents se préparent. Même le gouvernement a changé son fusil d'épaule là-dessus parce que tous les gouvernements du monde maintenant encouragent les gens à avoir des réserves parce que c'est difficile pour un gouvernement de subvenir aux besoins de base d'une population en état de crise rapidement. Et si tu as quelque chose pour 15, 20, 30 jours, déjà ça améliore tes chances de survie. Et là, ben, y a bien les survivalistes qui amènent ça plus loin. Il y a plus de 10 millions de survivalistes affirmés aux États-Unis. Mais la majorité de la population ont une petite conscience d'avoir un petit peu plus que pour les prochains repas là, dans le garde-manger. Parce qu'il arrive tellement de choses aux États-Unis, ils sont comme plus conscientisés à ça.
Et Mathieu Hébert, ben, il n'y a pas besoin de remonter très, très loin. Là. La crise du verglas au Québec, on était à un cheveu de manquer d'eau sur l'île de Montréal. Hein? Vraiment, si je pense qu'il y a un ou deux pylônes de plus qui tombaient, on avait des gros problèmes. Donc, on avait frôlé un genre de situation extrême à cette époque-là.
On peut aller même plus proche que ça, M. Martineau. La pandémie, on était vraiment très, très proche d'un bris de chaîne d'alimentation, de chaîne d'approvisionnement des vivres de base. On n'était pas loin. S'il y avait eu plus de choses qui se soient passées, plus de gens affectés, ben, à un moment donné, il n'y aurait plus eu assez de personnel dans les usines puis dans les transports pour approvisionner. Puis je pense que les gens l'ont un peu senti. On a vu des tablettes vides, on a vu des choses comme ça. Moi, j'étais dans des pays en plein milieu d'une crise sociale, dans le fond d'un renversement de gouvernement. J'ai eu cette chance-là. puis tu rentres, il n'y a plus d'argent dans les guichets, il n'y a plus de pain dans les épiceries, il reste juste quelque chose, des affaires que tu veux pas manger quand ça va mal, là, des chips, puis des affaires, des bonbons, puis là, toutes les affaires de base sont parties. Puis là, ben, ça fait la file. Tu sais, je l'ai vu, moi, en Équateur. Bon, OK, on peut plus circuler d'une ville à l'autre. Et ça m'est arrivé, moi, juste en voyage, tu sais.
Et puis on dit toujours ça arrive ailleurs, ça arrive pas chez nous. Ben je veux dire en Yougoslavie avant que ça soit la guerre civile, les gens vivaient, je veux dire comme au Québec là en paix totalement, puis du jour au lendemain les voisins ont commencé à se tirer dessus puis tout ça. L'Ukraine avait pas imaginé à un moment donné que l'armée russe débarquerait, même Zelensky n'y croyait pas lui-même le jour même où il y a eu une invasion de la Russie, il croyait pas. Donc, ce que vous dites, c'est que ben, ça peut arriver ici, là.
Ben, tu sais, la pandémie, qu'on l'aime ou pas, ou qu'on... peu importe comment on l'a vécu, elle a eu un effet. Peu importe l'opinion qu'on a de qu'est-ce qui s'est passé au niveau des décisions, de plus voir d'avions dans le ciel, de plus voir de bateaux arriver dans les ports, personne n'avait imaginé ça 6 mois avant, là. Mmh. Puis quand ça arrivait, tout le monde était un petit peu en déni. Et moi, je me rappelle, quand j'avais été interviewé, j'avais dit que nous, on était plus vulnérables à une pandémie majeure parce que ça fait une normalité importante, là, tu sais, de pouvoir sortir à l'heure qu'on veut, de plus de se poser un millier de questions, d'avoir toutes sortes de restrictions. Puis ça, ben, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a des catastrophes naturelles.
Les catastrophes naturelles. Moi, que les gens se préparent, mettons, là, comme par exemple, entre autres, là, la boîte de nourriture sèche de Costco, des choses comme ça, là, où on prend des canages et tout ça, j'ai aucun problème. Tu sais, il y a eu Katrina aussi, là, en Louisiane, puis tout ça. C'était une catastrophe naturelle et tout ça. Donc, on n'est pas à l'abri de ça. Moi, c'est quand on ajoute à ça des armes à feu. Là, non seulement c'est pas suffisant de d'arriver avec des canages puis tout ça puis de la nourriture sèche, mais là il faut que j'ai des armes à feu pour me protéger en cas. Là, ça commence à être un petit peu complotiste. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez.
Non, je pense que c'est pas complotiste dans le sens où si ça reste équilibré, c'est-à-dire qu'il y a une logique à ça. Si on regarde ce que l'État fait, ou une banque ou les camions de transport d'argent. Lorsqu'il y a une denrée qui pourrait être convoitée par quelqu'un, il y a de la sécurité. Parce que les citoyens qui s'arment pensent, réfléchissent, disent, ben là, si moi j'ai ce qu'il faut pour survivre, moi puis ma famille, ça se peut qu'il y ait des gens autour de moi qui veulent ça, puis moi, je dois assurer une sécurité autour de ce que moi j'ai préparé pour les non-préparés. Par contre, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que c'est la collaboration et la communauté qui fait que des gens vont survivre. Tu peux pas être assis sur tes cannes de bine avec un gun, penser que tu vas survivre l'apocalypse. Okay? Les humains ont collaboré. Même si on regarde à chaque jour les nouvelles, il y a des gens qui s'entretuent, ça va mal. Il y a plus de monde qui font des bonnes affaires que des mauvaises affaires, sinon il y aurait plus d'humains. Ça... T'sais, on fait beaucoup de bonnes actions, mais ça prend une sécurité. Il n'y a aucun État qui n'a pas de la sécurité. Mais si il n'y a plus de policiers, à Katrina, justement, vous avez donné l'exemple de Katrina, la sécurité s'est effondrée. La sécurité s'est effondrée parce qu'à un moment donné, il y a un prix de normalité qui peut être tellement grand que le policier, le pompier ou le militaire va dire « Là, moi, je m'occupe plus de ça, c'est fou, je vais aller voir ma famille qui est protégée. » Et ça, quand ça tombe, c'est un modèle historique qui a été vu à plusieurs reprises, quand ça tombe, le citoyen est livré à lui-même. Donc, les criminels vont pas devenir gentils du jour au lendemain. Ils vont avoir plus d'opportunités. Donc, un citoyen qui est éduqué, armé puis qui est bienveillant, a pas d'intention de folie meurtrière, parce que si c'était ça, il le ferait pendant...
Je comprends. Et je sais pas si je suis plus vieux que vous, probablement, mais quand j'étais jeune, il y a eu une grosse panne d'électricité à New York. La ville a été plongée dans le noir et ça a duré, je sais pas, 1 ou 2 jours, là, mais il y a eu, soudainement, les gens rentraient dans les commerces, défonçaient les commerces, se mettaient à voler, puis tout ça. Et New York est devenu comme un genre de jungle. C'était assez épeurant.
On est à 7 à 8 repas de tomber dans l'anarchie. Les gens, quand ils n'ont pas leurs médicaments, quand leurs enfants ont faim, quand ils ont peur pour leur sécurité, c'est sûr que les gens non préparés vont créer plus de chaos que ceux qui sont préparés. L'idée, je pense, du bon survivalisme, c'est de dire, ben nous, on n'aura pas un poids supplémentaire sur l'État qui a déjà les mains pleines. Il y a un exemple, par exemple, pacifique qu'on a vécu au Japon quand ils ont eu leur grosse catastrophe avec le nucléaire. Ça s'est vraiment bien déroulé parce que ce sont des Japonais, ils sont tellement disciplinés, puis il n'y a pas eu plein de crimes, il n'y a personne qui a tiré profit de ça. Mais c'est une exception. Ce qu'on voit dans plusieurs pays, aussitôt qu'il y a une crise, il y a beaucoup de chaos avant qu'il y ait de l'ordre qui est ramené.
Et en terminant, Mathieu Hébert, qu'est-ce qu'on apprend dans votre école de survie, les primitifs?
Ben, on apprend, les primitifs, c'est vraiment voué aux compétences anciennes. Donc, on apprend à faire du feu par friction, on apprend à s'orienter en forêt, à quoi faire si on est perdu, mais comment aussi profiter de la forêt différemment. On apprend le pistage, on apprend comment faire purifier de l'eau, à s'abriter, se cacher, chasser, trapper, ce genre de choses-là, mais on va très peu dans les compétences modernes. On a un autre volet qui est plus survie urbaine avec une autre branche qui s'appelle Corvux. Là, on fait de la survie urbaine, puis là, c'est possible d'apprendre toutes les choses de la survie urbaine, du jardinage jusqu'aux armes à feu.
Ah, c'est intéressant. J'étais perdu en forêt, moi, rien qu'une heure, là, où je me retrouvais plus du tout, là. J'ai eu la chienne de ma vie, parce que moi, si je me perds en forêt, c'est sûr que je meurs. C'est sûr que je crève. Je sais rien faire, strictement rien. Moi, des fois, on lit dans le journal, là, des enfants, des fois, qui sont perdus 3 jours en forêt, 4 jours en forêt, qui ont réussi à survivre en buvant de l'eau, en mangeant des fruits, puis tout ça. C'est quand même assez,
Oui, parfois les enfants vont suivre plus leur instinct que les adultes qui vont se projeter plus dans la situation. Parfois les enfants ont une meilleure chance de survie à un certain âge où ils sont comme un peu débrouillards puis ils vont faire un peu n'importe quoi, mais ils sont quand même. Faut pas oublier qu'on arrive de la forêt. Pendant des millénaires, on a vécu dans la forêt, mais là on est un peu domestiqué, donc on sait plus comment ça marche, un peu comme un chat dégriffé, puis c'est plus comment faire ça les survies.
Est-ce que vous apprenez aux gens à retrouver leur char dans les stationnements intérieurs? Mais ça, c'est une autre affaire.
C'est un gros problème.
Merci Mathieu Hébert, cofondateur de l'école de survie Les Primitifs. C'était très intéressant. Bonne journée. Salut.
Merci beaucoup.